Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Alors, Cyprien Sini, et se prépare, nous sommes toujours avec Franck Leboeuf pour Ma belle-mère et moi, 9 mois après, au théâtre de la Communico-Martin à partir de demain.
À 20h.
À 20h. Ce soir, ce matin plutôt, Cyprien, vous nous donnez des nouvelles de Bernard Madoff.
Oui,
vous. Le web de Cyprien Sini.
Donc vous vous souvenez de Bernard Madoff, hein, c'était le mania de Wall Street, l'as de la finance, longtemps considéré comme un génie jusqu'à ce qu'on découvre que c'était surtout un escroc. Il a été condamné en 2009 à 150 ans de prison pour une escroquerie portant tout de même sur 65 milliards de dollars.
C'est énorme.
C'est la plus grosse qui est jamais arrivée. Alors en ce moment, il purge sa peine dans le pénitencier de Butner, en Caroline du Nord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en prison aussi, le virus du business l'a rattrapé. Puisqu'au pénitencier, Madoff est devenu le boss du chocolat chaud, le parrain du Nesquik. En fait, il s'est tout simplement accaparé le marché du chocolat chaud. Il a acheté tout le stock de chocolat en poudre de la prison à l'intendant, puisqu'il avait un peu d'argent. Et désormais, il spécule. C'est-à-dire qu'il joue sur l'offre et la demande en le revendant évidemment plus cher aux autres détenus. Donc,
Oui. Mais c'est interdit.
Bah oui, mais bon, ça marche. Hein. Il laisse faire. Parce qu'en fait, il va se faire péter la gueule. Moi, je pensais qu'il allait se faire péter la gueule, effectivement. Oui. Mais en fait, c'est une star super respectée dans toute la prison. Parce qu'en fait, le journaliste qui a sorti l'affaire explique que comme c'est l'homme qui a volé le plus d'argent dans l'histoire, et ben pour les autres voleurs, c'est un héros, c'est un caïd. Donc c'est le caïd de la prison, à plus de 70 ans. Et donc en fait, il faut quand même rappeler
que... Moi, je me mettrais au café.
C'est un petit réconfort, un peu chocolat.
Les mecs, ils peuvent dire, je me suis fait avoir par Madoff.
Il faut quand même savoir qu'il a remboursé que 15 milliards des 65 qui ont disparu. Et donc même en étant très bon avec son business du chocolat chaud, il y a encore pas mal de gens qui ne seront jamais remboursés.
50 milliards, oui.
Donc il va très bien, il est très heureux.
Et il n'a jamais remboursé les gens qu'il a escroqués.
Que 15 milliards sur les 65.
Et pas que des gens riches.
Mais
non, bien sûr.
Ah non, mais c'est un odieux personnage.
Il a téléphoné à Stéphane Bern pour savoir si vous lui avancer les 50 milliards.
Il n'était même pas en position de discuter. On sait désormais ce que les chiens voient quand ils regardent la télé.
Bah oui, alors votre complicité avec les chiens n'est plus à prouver, Stéphane, hein, comme avec votre ami Eurydice.
Eurydice, fais le loup. Allez, Eurydice.
Je suis désolé, mais je m'en lasse pas. Il fait bien le loup. Alors, j'imagine que vous avez déjà certainement constaté que...
C'est un chien, Eurydice.
C'est un beau dossier, ça.
Il est très mignon, ce chien. Dossier. Donc, j'imagine que vous avez constaté que les chiens aimaient bien regarder la télé avec vous. Hein. Je ne sais pas si ça vous a remarqué.
Oui, c'est vrai.
Les chercheurs ont donc essayé de savoir ce qui les intéressait le plus en analysant leur vision. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens ont une vision dichromatique. C'est-à-dire qu'ils ne distinguent que les nuances de bleu et de jaune. C'est pour ça, par exemple, que sur la chaîne Dog TV, je ne sais pas si vous êtes abonné, Dog TV, donc on privilégie les ces deux tons, le jaune et le bleu.
D'accord.
Ensuite, ce qui attire l'attention des chiens, à chaque fois, ce qui marche, ce sont les autres chiens dans la télé. Alors, ils sont généralement sensibles au son des aboiements d'autres chiens, ça les fascine. Mais le plus intéressant dans l'étude, c'est que les chercheurs ont constaté que ce qui va plaire à tel chien ne plaira pas forcément à un autre chien. Les goûts télévisuels des chiens seraient en fait influencés par leur maître. Après, plutôt que
sans
de
rire.
C'est fou ça. Hein.
Regarde ce cas d'histoire. C'est comment vous savez ça? Ils ont posé la question aux chiens.
Non, ils ont analysé. En fait, ils leur ont fait regarder plusieurs écrans différents. Et c'est un travail de recherche, je pense.
C'est comme ma femme, elle me dit, oh, il est content. J'ai dit, quoi, elle te l'a dit?
Elle parle toujours du chien.
Ça va.
C'est exactement ça.
En tout cas, plutôt que de le mettre devant la télé, ils sont quand même unanimes pour dire que le mieux, c'est d'aller le faire courir dehors. Ils préfèrent
mettre dans les schtroumpfs. Ton chien, il est ravi alors. Parce que tout est bleu.
Tout est bleu, donc il voit.
Non, mais moi, ma chienne, il y a deux jours, il y avait un reportage sur... le plus grand cascadeur qui... à cheval. Là, j'ai oublié malheureusement son nom. Et ben, il parlait à son cheval. Et ben, la chienne, elle a aboyé. Elle regardait la télé, elle a aboyé.
Mais évidemment.
Elle n'avait pas aimé le bruit que faisait l'écuyer.
Enfin, l'étude la plus improbable de cette semaine.
C'est le moins qu'on puisse dire. Elle nous vient de l'université de Leicester, au Royaume-Uni. Et elle est très sérieuse, puisqu'elle est basée sur le modèle utilisé pour analyser et étudier les propagations des épidémies. Cette étude, relayée par Futura Science, nous apprend donc que les zombies ne mettraient que 100 jours pour anéantir l'humanité. Oui, 100 jours seulement. Non, c'est très sérieux. En fait, selon eux, c'est par un virus que les hommes seraient susceptibles d'être transformés en zombies. Ils sont donc partis d'un seul humain infecté. À partir du patient zéro, ils ont considéré que le virus du zombie était deux fois plus virulent que celui de la peste noire au XIVe siècle. Parce qu'en fait, avec les moyens de communication modernes, les virus se propagent beaucoup plus vite. En 20 jours, la planète serait alors en situation de pandémie. Et après une centaine de jours, on ne trouverait plus que 181 êtres humains encore vivants. Après, dans les scénarios les plus optimistes, l'homme pourrait résister, mais il lui faudrait quand même 27 ans pour éliminer tous les zombies. Et cette étude peut vous paraître loufoque, mais même du côté du Pentagone, il existerait un protocole de survie anti-zombie intitulé Conop 888. Ouais, et tout ça est archivé.
Qui est le nom d'une drogue également.
Non, mais
à mon
avis. C'est le livre de Stephen King, en fait. Où, non, mais moi, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps de Stephen King. Alors, j'ai oublié le titre, mais c'est en fait, c'est par les portables que le virus arrive.
Ah, j'ai vu le film. Ils ont fait une adaptation au film.
Ouais, et en fait, voilà, ils deviennent tous zombies.
C'est ce qu'on deviendra en écoutant à force d'utiliser nos portables.
C'est possible.
100 jours pour éradiquer la planète, alors que Walking Dead,
voilà, ça fait des saisons.
Ça fait 6 saisons, 11 saisons.
Mais on est toujours là. On est toujours là.
On est toujours là. Et on va retrouver Franck Leboeuf dans un instant pour la chronique. C'est vrai que.
Vous écoutez RTL.